la parole de Dieu ce matin. Amen. Donc, j'aimerais voir si vous avez une Bible avec vous, ou sinon, vous avez reçu une feuille à la porte avec tous les versets de la parole que nous allons lire ensemble. Nous allons faire une déclaration de la foi. Voici ma Bible. Et il faut le faire très fort. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais transformé et changé de gloire en gloire dans l'image de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, moi, j'ai un message qui brûle dans mon cœur ce matin. Et on fait quand même une série depuis quelques semaines. Le meilleur est à venir. N'est-ce pas une bonne nouvelle? On a toujours de l'espérance. Comme aujourd'hui, on a tous l'espérance que le printemps va arriver un jour, n'est-ce pas? Et on sait que ça s'en vient. Mais le meilleur est à venir. Pas juste dans le naturel, parce que, laisse-moi vous dire, c'est pas toujours le cas dans le naturel. On peut pas juste dire d'une façon comme ça que toutes les choses sur la terre vont s'améliorer. En fait, la Bible dit le contraire, n'est-ce pas? Que dans les derniers jours, les choses vont aller en s'empirant. Mais pour quelqu'un qui connaît Jésus, pour quelqu'un qui est dans le Seigneur, pour quelqu'un qui a la parole de Dieu dans sa vie et dans son cœur, on peut savoir que le meilleur est toujours à venir. Et le verset clé qu'on a pris comme texte clé pendant cette série, c'est Jérémie 29. Et je vais juste vous inviter à le lire encore avec moi et de regarder ceci. Écoutons qu'est-ce que Dieu dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. N'est-ce pas bon de savoir que Dieu a formé les projets sur nous? Et que quand Dieu forme un projet, son projet est destiné à réussir. Dieu ne fait pas de gaffe. Regarde quelqu'un de Dieu, ne fais pas de gaffe. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Donc, si quelqu'un a déjà dit que vous étiez en attente ou vous n'étiez pas ici, vous n'étiez pas planifié, ils ont tort. Dieu a planifié que vous soyez là. Et même si vos parents n'ont pas planifié, Dieu savait que vous serez là. Et c'est pas une erreur, c'est pas une gaffe. Dieu, il a un projet. Et on voit ici, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix. Et ce mot paix, en hébreu, c'est quoi?
Shalom.
Shalom. Et shalom veut dire quoi? Rien de brisé et rien qui manque. Donc, en fait, Dieu est en train de dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de shalom, les projets, en fait, qu'est-ce que j'ai projeté pour votre vie, c'est que rien soit brisé et que rien manque dans votre vie. C'est ça que j'ai projeté. Ça, c'est le plan que j'ai pour votre vie. Rien de brisé et rien qui manque. Bon, le projet de paix est non de malheur afin de vous donner un... quoi? Un avenir et de... l'espérance. Donc voilà, on voit encore le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu qui planifie. Et qu'est-ce qu'il planifie? C'est toujours bon. C'est réussi c'est garanti à réussir. On voit ici que c'est les projets de shalom, les projets qui vont faire en sorte que rien manque et que rien soit brisé dans votre vie. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas découvert les projets que Dieu a formés sur eux. Et ils sont en train de vivre, même des chrétiens. Je suis convaincu de cela. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais commencé même à vivre pleinement dans les projets de Dieu. Ils sont en train de vivre de jour en jour et en fait, ils sont en train d'expérimenter les projets de malheur que l'ennemi a projetés sur eux, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez ce matin? Ah, ça, c'est vraiment faible. Là, je compte sur vous ce matin, OK? Avec le changement d'heure et la neige, on n'est pas trop nombreux, donc je compte sur vous d'être là. Si vous êtes là, soyez là, OK? Wouh, c'est bon! Donc, et aujourd'hui, c'est ça. Donc, on voit dans la parole de Dieu qu'il a formé sur nous les projets de paix afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mais aujourd'hui, on veut aller un peu plus loin et on veut parler de comment garantir le succès de votre avenir. Comment garantir le succès de votre avenir? Est-ce que ça vous intéresse? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui préférait l'échec dans l'avenir? Moi, je veux réussir. Je veux vivre pleinement les projets que Dieu a formés sur moi. Je veux vivre les projets qu'il a formés sur moi personnellement, dans ma vie spirituelle. Je veux vivre pleinement qu'est-ce qu'il a formé sur moi comme projet pour ma vie familiale. Je veux vivre pleinement qu'est-ce qu'il a formé sur moi concernant le ministère et cette église. Dieu a un plan. Regarde quelqu'un d'autre, il dit un plan pour toi. Amen. Donc, on va voir comment garantir le succès de votre avenir. Et pour cela, il y a des ingrédients que nous voyons dans la parole de Dieu. En fait, il y avait quelques versets, 3 ou 4 versets qui sont venus dans mon cœur quand je priais pour la réunion ce matin. Et ça va de pair avec ce qu'on a déjà vu les 2 autres semaines dans cette série. Mais on va commencer en 1 Corinthiens chapitre 13. Et nous allons voir les ingrédients, les choses obligatoires, si vous voulez, si on veut réussir, si on veut avoir le succès pour notre avenir. Il faut saisir ces réalités, il faut comprendre et il faut incorporer ces ingrédients dans notre vie quotidienne. Donc ici, on voit en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Ici, il parle de quoi? Ici, on voit la réalité que nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, on voit les choses, on peut comprendre les choses, on peut voir le plan de Dieu pour sa vie, mais on ne peut pas comprendre tout complètement. Nous voyons comme dans un miroir, c'est un reflet, parce que notre connaissance est partielle, notre révélation est partielle, ce n'est pas complète. On a eu une révélation de Jésus, mais qui ici connaît complètement l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tout compris, tout concernant Dieu? Il n'y a personne, moi non plus. Mais qui ici a complètement saisi la grandeur et tous les détails du projet de Dieu pour votre vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend tout? Personne. Mais on voit ici qu'aujourd'hui, présentement, il y a des choses qu'on peut savoir. Il y a des choses que Dieu a révélées. Il y a d'autres choses qu'on ne va pas savoir, même avant d'aller au ciel. Il y a des choses qu'on a besoin de savoir ici sur la terre. Il y a d'autres choses qu'on va savoir une fois rendu au ciel, à l'autre côté. Mais comme j'aime beaucoup qu'est-ce que la parole de Dieu dit ici, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. N'est-ce pas bon de savoir qu'un jour, notre révélation va être complète. On va savoir toutes les choses que nous avons besoin de savoir. Nous ne verrons plus à travers un miroir, mais nous allons voir Jésus face à face et nous allons connaître Dieu comme il nous connaît et on va connaître son plan pour notre vie et notre destinée complètement. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Mais regardons bien, verset 13. En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Tout le monde dit la foi, l'espérance et l'amour. Ces 3 choses sont les 3 ingrédients, selon moi, selon qu'est-ce que je vois dans la parole de Dieu, ce sont les 3 ingrédients essentiels si vous voulez vraiment saisir la plénitude de qu'est-ce que Dieu veut faire pour votre vie, ici sur la terre, et même au ciel, on voit que ces 3 choses demeurent, même pour l'éternité. Ce sont 3 qualités ou 3 forces spirituelles qui ne sont pas temporaires. Dans le contexte de ce verset, ça parle des dons de l'esprit, les prophéties, les langues, l'interprétation de langues, et la Bible dit que toutes ces choses, un jour, vont disparaître. Pourquoi? Aujourd'hui, on prophétise parce que on connaît juste une partie de son plan, et Dieu nous donne des petits morceaux de révélation, et on peut les prophétiser. Il nous révèle au fur et à mesure les choses concernant son plan. Mais un jour, je vais voir Jésus face à face, j'aurai plus besoin de prophétiser, j'aurai plus besoin de messages en langue, avec interprétation de langue, parce que je vais le connaître comme il me connaît. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais entre-temps, j'ai besoin de ces choses, n'est-ce pas? J'ai besoin des dons de l'esprit, j'ai besoin de la prophétie, les langues, l'interprétation des langues, les dons de révélation, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse et tout. J'ai besoin de tout cela, mais un jour, j'aurai plus besoin. Mais une fois que toutes ces choses temporaires vont disparaître, il y a trois choses qui vont rester pour l'éternité. Quelles sont les trois choses qui vont rester pour l'éternité? La foi, l'espérance et l'amour. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut commencer ici-bas à expérimenter la foi, l'espérance et l'amour, et une fois rendu au ciel, ça va continuer. Les trois choses les plus importantes, c'est la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, il y a un autre verset qui parle de cela. Plus tard, on va le voir. Mais premièrement, je veux juste nous donner des petites définitions de c'est quoi la foi, c'est quoi l'espérance, c'est quoi l'amour. Si ce sont les trois ingrédients les plus importants pour réussir notre avenir, donc il faut les comprendre, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi la foi? La foi, je donne une définition directement tirée directement de la Bible. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, c'est une ferme, quoi? Confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est la foi. C'est une ferme assurance des choses, de la réalisation de ce qu'on espère. Tout le monde dit ferme confiance. C'est pas bon, peut-être oui, peut-être non. Non, quand nous avons la foi, nous sommes convaincus de quelque chose. Donc ça, c'est une chose qui demeure. Aujourd'hui, je peux être convaincu que Dieu existe. Aujourd'hui, je peux être convaincu que j'ai reçu la vie éternelle. Aujourd'hui, je peux être convaincu que les promesses de Dieu sont oui et amen. Aujourd'hui, je peux croire avoir reçu les choses que Dieu m'a promis. Aujourd'hui, je peux posséder déjà en avance. Avant de voir, je peux croire. Amen? Est-ce que vous pouvez croire avant de voir? Il faut. Ça, c'est la foi. Et ça, c'est une chose qui va demeurer pour l'éternité. Donc, mais c'est quoi l'espérance? Parce que l'espérance, en fait, c'est un ingrédient nécessaire pour avoir la foi. La foi, c'est une ferme confiance de ce qu'on espère. Donc, si on n'espère pas, on ne peut pas croire. Mais juste remarquez bien, la foi est présente. Tout le monde dit la foi est présente. OK? Tandis qu'on peut dire l'espérance est future. Ça, c'est une des différences entre la foi et l'espérance. La foi croit l'avoir possédé déjà en avance. C'est aujourd'hui, je suis convaincu, tandis que l'espérance, c'est futur. On a déjà donné cette définition, mais c'est une attente joyeuse et confiante de la vision d'un futur préféré. Si j'ai de l'espérance, j'espère que très bientôt la neige va fondre. Combien de vous ici, vous avez l'espérance que la neige va fondre? Donc, c'est quoi ça, cette espérance? C'est une attente joyeuse et même confiante. En fait, je suis pas mal confiant qu'on va pas avoir la neige quand même le mois d'août. Vous êtes d'accord? Combien de vous, vous espérez pas avoir de la neige le mois d'août? Hein? J'espère, j'ai de l'espérance que rendu au mois d'août, j'aurai plus besoin de pelleter. Et je suis convaincu que je vais être heureux de ne plus avoir besoin de pelleter, que même mes enfants vont être contents de ne plus avoir besoin de pelleter. Mais j'ai cette espérance. L'espérance, c'est dans le futur. J'ai cette image. J'ai une vision d'un futur préféré. Je préférerais ne pas pelleter. Amen? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, mais j'ai pas la foi aujourd'hui que la neige va disparaître aujourd'hui ou demain. Ça serait pas la foi, ça serait la folie ou la présomption. Vous êtes d'accord? La foi, l'espérance et l'amour. L'espérance, c'est une attente joyeuse et confiante. C'est la vision d'un futur préféré. il y a un verset qui parle de cela, Philippiens 1, 19, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente, soulignez cette phrase, ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera, c'est quel temps sera, c'est futur, n'est-ce pas? Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. C'est bien important de comprendre la différence entre l'espérance et la foi. Parce que si vous mélangez les deux, vous serez plus capable de recevoir de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui est malade et qui commence à entendre que Dieu peut guérir et que Dieu veut guérir. Cette personne peut commencer à avoir de l'espoir. Tout d'un coup, il a une vision. La personne qui n'a pas été en bonne santé depuis 10 ans, ou dans le cadre de la Bible, on voit des personnes depuis leur naissance, ils n'ont jamais marché ou quoi, des choses comme ça. On parle de quelqu'un qui est malade, qui est souffrant, qui est dans la misère. Tout d'un coup, il entend que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il entend que le Seigneur peut guérir, et il veut guérir, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que la personne commence à avoir un peu d'espérance. Il commence à avoir une vision, il se voit tout d'un coup guéri, en train de marcher ou en train de vivre, mener une vie normale, sans douleur et sans souffrance. Donc, ça, c'est l'espérance, n'est-ce pas? Mais est-ce que cette personne croit qu'il est guéri? Pas encore. Mais avant de croire d'être guéri, il faut commencer avec l'espérance. C'est comme j'ai donné l'exemple la semaine passée. Quelqu'un reçoit une publicité par la poste, et quand, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui, on reçoit une annonce pour une croisière dans un pays chaud où on voit l'image de la plage avec les palmiers et il y a un spécial, c'est un tiers du prix normal, spécial de la dernière minute. La personne peut dire, waouh, ça c'est dans mon budget, ça c'est quelque chose, j'ai pas prévu cela, mais je vois que ça pourrait être une possibilité. Je pourrais me rendre à Panama ou à Cuba ou quelque place de même, et je peux, au lieu de pelleter, je peux aller me bronzer à la plage. Est-ce que la personne a la foi qu'il va arriver ou que à la plage? Non, la personne a juste l'espérance. L'espérance prend naissance dans son cœur. Mais qu'est-ce qu'il a besoin de faire? C'est qu'il faut qu'il agisse maintenant. La personne a besoin de prendre le téléphone. La personne a besoin de donner son nom, peut-être donner un numéro de carte de crédit, et la personne a besoin de faire une transaction pour acheter un billet d'avion. Et une fois que le billet d'avion est acheté, la personne peut dire, là, je viens d'acheter une vacance. J'ai un billet d'avion. Est-ce qu'il a vu le billet d'avion? Non. Est-ce qu'il a vu l'avion? Non, mais la personne a acheté le billet d'avion, donc il a une certaine foi, j'ai une ferme assurance dans la réalisation de qu'est-ce que j'ai espéré. J'ai espéré aller dans un pays chaud, mais maintenant je suis passé à l'action, j'ai pris le téléphone, j'ai fait une réservation, j'ai même payé, c'est déjà réglé, j'ai un billet d'avion. Un autre exemple, quelqu'un qui a besoin d'un nouvel auto, il peut voir une annonce dans le journal. Il cherche depuis longtemps une certaine auto occasionnée et tout d'un coup, il voit que l'auto est à vendre, c'est la bonne couleur, c'est la bonne année, c'est le bon nombre de kilomètres et tout. Donc, c'est le bon prix, c'est parfait pour lui. Donc là, il commence à avoir l'espérance. « Wow, je peux avoir finalement le char dont j'avais besoin, je peux l'avoir. » L'espérance prend naissance. Il a une vision, il peut se voir. Quand il se couche, il a une petite image, un flash, un clip vidéo qui passe dans la tête. Il se voit en train de conduire cette nouvelle auto. Mais c'est toujours l'espérance, parce qu'il n'est pas passé à l'action. Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller à la concessionnaire et il va signer un contrat, il va donner l'argent, donc ils vont même peut-être lui donner la preuve que la transaction a été acceptée, c'est fait, et ils deviennent propriétaires du nouvel auto. Sauf qu'ils ont besoin, avant de livrer l'auto, de l'envoyer quelque part pour une dernière petite réparation, ou une dernière préparation, ou un dernier lavage. Donc la personne peut se promener en ville en disant, tu sais quoi, moi je viens d'acheter une nouvelle auto. Ah oui, c'est où? Mais je ne l'ai pas encore, mais c'est à moi. Donc tu vois, ça c'est la foi. La foi, c'est la ferme assurance de la réalisation de ce qu'on ne voit pas. Il ne voit pas son auto, mais la transaction est déjà faite. C'est plus juste une espérance. Il n'a pas juste vu l'annonce. Il est passé à l'action. Il a pris possession de son auto légalement, même s'il n'a pas pris possession de son auto dans le naturel, dans le visuel. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous comprenez la différence entre l'espérance et la foi? La foi est présente, je le possède, c'est à moi maintenant. L'espérance est future, un jour je vais l'avoir. Allô? OK, on continue. L'amour, la foi, l'espérance et l'amour. Ce sont trois choses qui vont toujours demeurer pour l'éternité même. Donc, on voit que les trois choses vont ensemble. On ne peut pas avoir la foi sans avoir espéré. Mais regardons ceci. C'est quoi l'amour? Moi, j'ai donné juste une définition qui sort de mon cœur. Quand je regarde la Bible dit que Dieu est amour. Tout le monde dit Dieu est amour. L'amour n'est pas une émotion. L'amour, c'est une décision. Il y a plusieurs genres d'amour. Il y a un amour émotionnel. Ça existe un amour réciproque où je fais quelque chose de gentil pour toi et tu fais quelque chose de gentil pour moi. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'amour fraternel ou dans le grec, c'est l'amour philéo, d'où on vient le nom de Philadelphia. C'est la ville de l'amour fraternel. Vous avez entendu parler de Philadelphia? Mais l'amour philéo, c'est un amour réciproque. C'est conditionnel. Si tu es gentil avec moi, je serai gentil avec toi. Mais si tu es méchant avec moi, il se peut que je vais être méchant avec toi. C'est conditionnel. Mais quand la Bible dit que Dieu est amour, la Bible dit pas que Dieu est philéo. La Bible dit que Dieu est agapé. Et le mot agapé, c'est différent. Ça, c'est un amour qui est plus haut et plus élevé que l'amour fraternel. L'amour agapé est comme une route sans unique. Ça dépend pas de moi. Peu importe qu'est-ce que j'ai fait. En fait, la Bible dit que Dieu m'a aimé en premier. Quand j'étais encore un pécheur, Dieu m'a aimé. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Combien de vous êtes contents que Dieu t'aime même avant que tu l'as aimé? Mais pour moi, l'amour, c'est quoi? C'est un engagement complet et inconditionnel. Et c'est un engagement à quoi? Au bien-être d'un autre ou d'une autre personne. Et c'est un engagement qui est prouvé par le sacrifice total et désintéressé. Savez-vous quoi? Quelqu'un qui est vraiment en train de marcher dans l'amour, c'est une personne qui aime sans condition. Je t'aime, il n'y a rien que tu peux faire pour changer ça. Si tu craches dans mon visage, je vais t'aimer quand même. Je ne vais pas apprécier, mais si tu le fais, je vais t'aimer. Tu ne peux pas, il est impossible de changer mon amour pour toi. La chose la plus proche que nous pouvons avoir peut-être sur la terre, pour comprendre cela, on voit cela des fois, les parents avec leurs enfants, on voit les enfants qui sont rebelles, révoltés, ils font des bêtises, et ils disent des choses horribles, mais maman va quand même l'aimer. N'est-ce pas? Mais ça, c'est rien comparé à l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu, son amour est inconditionnel, et c'est prouvé. C'est prouvé juste par pas juste par les paroles, mais c'est prouvé par les actions. Et on voit cela en Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve, souligne le mot prouve. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, qu'est-ce qu'il a fait? Christ est mort pour nous. Savez-vous qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? C'est facile de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais est-ce qu'on est prêt à faire un vrai sacrifice? J'ai déjà raconté l'histoire, n'est-ce pas, du poulet, de la poule et du cochon qui voulaient honorer le fermier. Est-ce que je l'ai déjà raconté? Et il voulait faire quelque chose de gentil, et puis pour les gens qui n'ont pas entendu. Et puis finalement, la poule a eu une bonne idée. Elle a dit, bon, je sais qu'est-ce qu'on peut faire. On peut préparer un déjeuner pour le fermier. Ça fait des années qu'il travaille ici, il travaille dur, il prend toujours soin de nous, il nous nourrit bien comme il faut. On a une belle place pour vivre. C'est une belle ferme ici. Donc, je sais qu'est-ce qu'on va faire. On va lui préparer un déjeuner. Et on va lui offrir des œufs et du jambon. Et puis le cochon regarde la poule et dit, mais il y a juste un problème avec cette histoire. Pour toi, hein, ça prend un petit sacrifice, mais pour moi, c'est un engagement total. Et savez-vous, quand Jésus est venu comme Sauveur et Seigneur, et quand il a pris notre place à la croix, c'était un engagement total, n'est-ce pas? Il s'est livré lui-même pour nous. Ça, c'est l'amour. Et ça, c'est un amour qui va durer pour éternité. Cet amour ne va jamais prendre fin. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que cet amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Tout le monde dit la foi, l'espérance et l'amour. La foi, c'est maintenant. L'espérance, c'est le futur. Et on peut dire que c'est l'amour qui donne libre cours à la foi et à l'espérance aussi. L'amour, c'est la force. Hein? C'est comme le feu qui va allumer le dynamite. Si on n'a pas d'amour, notre foi ne marche pas. Si on n'a pas d'amour, notre espérance peut nous décevoir. Mais si nous avons la foi, l'espérance et l'amour qui travaillent ensemble, nous allons réussir notre avenir. Amen. Et tout ce qu'on fait sur la terre va réussir, et on sait que même pour l'éternité, la foi, l'espérance et l'amour vont continuer pour toujours. Regardons Galates chapitre 5, verset 5. Pour nous, fortifiés par l'Esprit, c'est par la foi que nous espérons être déclarés justes. Oui, une parfaite justice nous sera accordée parce que nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. C'est là notre quoi? Espérance, et l'Esprit la confirme en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être juif ou de ne pas l'être. Cette distinction ayant perdu toute signification seule compte la foi, une foi qui débouche sur quoi? L'amour, et se traduit par des actes. Est-ce que vous voyez, dans ce verset, nous voyons encore, c'est triplé. On voit la foi, on voit l'espérance, et nous voyons l'amour. Et ce sont les trois ingrédients. Si vous n'avez pas d'espérance, vous ne pouvez pas avoir la foi. Et si vous n'avez pas l'amour, votre foi ne va pas agir. Donc, est-ce que vous voyez cela? Il faut espérer. Mais espérer, ce n'est pas assez. Il faut agir. Mais avant d'agir, il faut être inspiré par l'amour. Et si je suis inspiré par l'amour, je vais agir selon l'espérance que j'ai reçue, et cette espérance va devenir une réalité, et ça, c'est la foi, l'espérance et l'amour qui marchent ensemble. Amen. En Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père, votre quoi? Votre foi agissante, votre amour actif, et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit, c'est pas juste une fois que la Bible parle de la foi, l'espérance et l'amour. On le voit partout. On a besoin de la foi et notre foi doit être agissante. On a besoin de l'espérance et notre espérance doit être ferme. Mais on a besoin de l'amour et l'amour doit être actif. Amen. Donc, juste pour terminer aujourd'hui, je voulais juste qu'on pense à cela. Trois choses qu'on peut faire pour cultiver la foi, cultiver l'espérance et cultiver l'amour dans notre vie. Parce que moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux atteindre les objectifs que le Seigneur m'a donnés dans ma vie. Moi, je veux réussir ma vie aujourd'hui et dans le futur. Et vous? Combien de vous, vraiment, vous voulez entendre Jésus dire « Bien fait, bon et fidèle serviteur » Il va nous voir face à face. On va face à face avec Jésus-Christ et on va avoir un compte à rendre à lui. Je pensais à ça juste pour une minute. Est-ce que vous êtes prêt à voir Jésus? Est-ce que vous êtes prêt à voir Jésus, votre Créateur, votre Sauveur, votre Seigneur et votre Maître? Est-ce que vous êtes prêt à lui rendre compte pour votre vie? Laisse-moi vous dire, si vous n'êtes pas prêt, il faut se préparer. Amen. Comment est-ce qu'on se prépare? C'est par la foi, l'espérance et l'amour. C'est en cultivant ces qualités, la foi, l'espérance et l'amour. Et le plus grand, le plus important de toutes ces choses, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, on devrait mettre l'accent là-dessus. Si j'aime Dieu et si j'aime mon prochain, je vais faire sa volonté. Je vais espérer la bonne chose et je vais croire la bonne chose. Et là, je vais arriver à la bonne place, au bon moment, faisant la bonne chose, avec la bonne attitude, avec les bonnes personnes. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Quand on parle de la foi, numéro un, réclamer par la foi, aujourd'hui, ce que Dieu vous a promis. Moi, je veux pas que ma foi soit une foi en théorie. Il faut que ma foi soit agissante. La foi sans les œuvres est morte. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, j'ai la foi, j'ai la foi. Prouve-le. Prouvez que vous avez la foi. C'est comme la personne qui dit, ah, je vais prendre une vacance dans le sud. Je vais aller dans le pays chaud. Je vais aller dans le pays chaud. Oui? Prouve-le. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que j'ai reçu un pub. Et parce que j'ai mis le pub sur mon babillard dans la maison, ou sur mon frigo. À tous les jours, je vois l'image de la plage où je vais aller. Est-ce que vous êtes vraiment dans la foi, ou est-ce que vous avez juste une espérance un jour? Si vous êtes vraiment dans la foi, agissez. Prouve-le. Prends le téléphone. Fais la réservation. Achète le billet d'avion. Amen? C'est comme les personnes qui disent, mais un jour je vais vivre pour Dieu. Un jour je vais servir le Seigneur. Un jour je vais obéir à Dieu et être dans le ministère. Un jour je vais me faire baptiser. Un jour, oui, prouve-le. Agissez. C'est trop facile de dire, oh, mais j'espère qu'un jour je vais. Un jour, je vais passer du temps avec ma femme. Un jour, je vais être gentil avec mes enfants. Prouve-le. Passe à l'action. Que votre foi devienne agissante. Amen. Donc, il faut réclamer les choses. Il faut prendre possession. Imaginez les enfants d'Israël. Ils sont 40 ans dans le désert parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils tournent en ronde. Ils meurent dans le désert, sauf Josué et Caleb et les plus jeunes. Et finalement, le moment est arrivé pour eux de traverser le Jourdain et de prendre possession de la terre promise. Mais Dieu a dit, à chaque place où foulera la plante de votre pied, je te l'ai donné. Donc la foi ne dit pas, oh, mais un jour je vais vivre à l'autre côté du Jourdain. Un jour, je vais avoir une belle place dans un pays qui coule avec le lait et le miel. Un jour, un jour, un jour. Un jour ne va jamais arriver, à moins que votre foi devienne agissante. Il faut prendre possession. La personne qui est malade, qui dit, pasteur, prie pour moi. Et on prie la prière de la foi, ou au moins une personne prie la prière de la foi pour la guérison. Et puis la personne dit, ben, j'espère que le Seigneur va me guérir. J'espère que le Seigneur va me guérir. Ça, c'est pas la foi. La foi dit, merci Seigneur, tu m'as guéri et je la reçois au nom de Jésus. Ça, c'est la foi. Il faut que la foi agisse. Regardons, en Romains chapitre 5, il y a plusieurs versets qu'on va lire. Verset 1 dit ceci, « Si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu en raison de notre quoi? Foi, nous avons été déclarés justes. » C'est déjà fait, n'est-ce pas? « En raison de notre foi, nous sommes en paix. » Ça, c'est quel temps? C'est présent, passé ou futur? C'est présent. Nous sommes en paix. Il n'est pas marqué, nous serons dans la paix. Nous sommes en paix à cause de notre foi. Nous sommes en paix aujourd'hui. Laisse-moi vous dire aujourd'hui, je suis sauvé. Je ne serai pas sauvé tout simplement dans le futur, mais je suis déjà sauvé. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle création parce que ma foi a agi et j'ai reçu le don gratuit de la justice. J'ai reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Je suis sauvé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça?
Amen.
C'est bon. Wow, on dirait que l'église est pleine. Malgré la neige. Alléluia. Mais regardons, si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu en raison de notre foi, nous sommes en paix avec lui grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Jouissons de cette paix et gardons-la. Jouissons de cette paix et gardons-la. J'ai déjà la paix, maintenant c'est à moi de jouir de cette paix et de la garder. Savez-vous qu'il y a des choses que vous pouvez posséder dans l'esprit, certaines choses, si vous ne faites pas attention, vous pouvez perdre qu'est-ce que vous avez possédé par la foi? Les enfants d'Israël, c'est un bon exemple, ils ont pris possession de la terre promise, mais plus tard, à cause de leur désobéissance, ils ont perdu la possession de la terre, ils ont été amenés captifs. Vous vous rappelez? Donc, quand vous recevez par la foi, la guérison dans votre corps, garde-la! Garde le switch de la foi bien ouvert. Commence pas à douter. Commence pas à mettre en question qu'est-ce que Dieu a fait pour vous. Gardez la foi. Amen. De bon combat. Marc chapitre 11, verset 23 soutient cette idée. C'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, pas arrivera, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, on croit dans le présent, on voit dans le futur. Ça, c'est la foi. Je crois présentement que j'ai déjà reçu quelque chose qui va se manifester visuellement dans le futur. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, pas que vous allez le recevoir, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc voilà la clé. La clé, c'est de ne demander que des choses que Dieu a promis. Si Dieu a promis le salut, on demande le salut et je crois avoir déjà reçu le salut, même si je n'ai pas encore vu avec mes yeux tout mon héritage, je crois avoir reçu mon héritage en Jésus-Christ, je crois avoir reçu la vie éternelle, je crois que j'ai une place réservée pour moi au ciel, même si je ne l'ai pas encore vu, c'est déjà une réalité aujourd'hui. Je suis citoyen du ciel, je suis sauvé, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia! Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la foi. Laissez-moi vous dire, mes amis, il faut croire que vous avez reçu. Amen? Alléluia. Je viens d'avoir une pensée. Je m'excuse. Alléluia. Numéro 2. Et ça, c'est une chose. Laisse-moi vous dire, ce n'est pas forcément en ordre chronologique non plus. Certaines choses, oui, mais d'autres choses, non. Parce que ces trois forces de la foi, l'espérance et l'amour, ils sont interdépendants. J'ai besoin de l'amour pour continuer à espérer. Et j'ai besoin de l'amour pour que ma foi agisse. Mais il faut que j'espère avant de pouvoir croire. Donc, c'est comme un dynamique qui est continuellement en action. Les trois choses se nourrissent. Ma foi, mon espérance et mon amour se nourrissent et grandissent ensemble. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais c'est quoi la deuxième chose qu'on a besoin de faire si on veut réussir notre avenir? Oui, on a besoin de réclamer par la foi ce que Dieu a promis, mais deuxièmement, revêt avec confiance et joie de votre vie, de votre, pardon, espérance future. Revêt. Donc, il faut réclamer, ça c'est la foi. Aujourd'hui, je réclame. Aujourd'hui, je reçois. Aujourd'hui, je crois. Mais il faut aussi revêt. Savez-vous, revêt, il y a des gens qui pensent que c'est malsain d'être un rêveur, mais pas du tout. Si vos rêves sont basés sur l'amour de Dieu, la présence de Dieu, les promesses de Dieu, il faut rêver. Il faut avoir une vision pour sa vie. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Le peuple est détruit parce qu'ils n'ont pas de vision. Vous avez besoin d'une vision pour votre vie. Qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que vous avez des espérances aujourd'hui? Il faut nourrir ces espérances. Il faut continuer à rêver. Il faut continuer à penser grand. Je pense à ceux qui ont eu la vision de prendre une navette spatiale et de mettre un homme sur la Lune. Ils ont dû rêver. Il y a des personnes qui se moquaient carrément d'eux. Vous vous rappelez des frères Wright qui ont fait le premier avion avec moteur et motorisé? Eux autres, même leur propre père a dit que les hommes ne vont jamais être capables de voler. Ça serait leur propre père se moquait de cette idée, de ce principe qu'un homme pourrait prendre un avion et une machine et voler dans les airs. Mais maintenant, c'est pas juste un homme qui peut le faire. Il y a des avions qui existent. On peut mettre 300 personnes et plus, 300 personnes et plus toute la bagage, et on peut voler pendant des heures de temps. Et on peut traverser les océans aujourd'hui, et c'est comme rien. À tous les jours, il y a des personnes, des milliers de personnes. Mais pourquoi? C'est parce que quelqu'un a osé rêver de qu'est-ce que les hommes disaient était impossible. C'est quelque chose, hein? La technologie, juste ça devrait nous inspirer un peu. Vous savez, il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui que je m'en souviens quand j'étais jeune. On avait les téléphones et on juste entre nous, les amis, je m'en souviens une fois, on parlait, « Hey, ça serait tellement cool un jour. Penses-tu que ça serait possible qu'un jour on pourrait parler et voir la personne avec qui on parle en même temps? » Et c'est comme, « Ah, oh, oui, on riait. C'est, « Ah, oh, oui, ça serait le fun, mais c'est comme vraiment pas possible. » Mais juste, ouais, ça existe. Mais juste l'autre jour, j'étais en train de travailler à la maison sur mon ordinateur portatif et tout d'un coup, blink, j'ai un message de mon ami, Pastor John Madden en France, qui écrit, Hi there, comment ça va? Vous êtes là? Et puis, j'ai cliqué deux fois et on était en communication. Lui, il a un petit caméra dans son ordinateur, j'ai un caméra dans le mien et l'ordinateur qui n'est pas branché nulle part, sans fil, qui fonctionne avec une batterie, là, je suis en train de parler avec lui, qui était en train de... il venait tout juste de terminer à prêcher en Alsace, en France, et je connais les personnes avec qui il restait, donc il passait en arrière de l'écran, j'ai dit coucou, et les autres, ils sont venus. Donc, on se voyait, et c'est gratuit en plus. Ça coûte pas un sou de communiquer comme ça. C'est avec un logiciel de Skype, c'est comme, wow! Mais quelqu'un a osé rêver qu'on peut faire des choses, même quand les hommes disent que c'est impossible, il y a toujours un moyen. Qu'est-ce que Dieu a dit? En Genèse 11, il a vu les hommes à Babel qui commençaient à construire en dessus une tour qui n'était pas dans le plan de Dieu, mais Dieu a dit, il faut confondre le langage parce qu'ils sont dans l'unité, je paraphrase, et maintenant, tout ce qu'ils projettent, il n'y a rien qui sera impossible. S'ils projettent, ils sont capables de le faire. Et c'est la même chose. Je crois qu'on a besoin, si on veut réussir notre avenir, on a besoin de réclamer les choses que Dieu a déjà promis, mais on a besoin de rêver aussi. Mais pas rêver, hein, parce qu'on a mangé trop de pizza. On a besoin de rêver parce que nous avons médité beaucoup la parole de Dieu, et nous connaissons Dieu, et on se laisse inculquer avec une vision d'en haut, n'est-ce pas? Moi, je rêve d'une église qui est grande, qui est triomphante ici à Drummondville, qui va faire un impact, que tout le monde va savoir que cette église existe. Amen? Je rêve de voir les hommes et les femmes formés pour le ministère dans le centre de formation biblique de Réma Québec et Réma France et pour la francophonie. On a un rêve, nous avons cette vision que toute la francophonie va être touchée par les ouvriers qui sont formés. Moi, j'ai des rêves qui sont beaucoup plus grands que moi. J'ai des espérances. Et vous? C'est quoi votre espoir? Alléluia. Ici, nous voyons cela. Nous avons le bonheur de pouvoir, dès maintenant, est-ce que vous êtes là? C'est en Romains 5, 2. Nous avons le bonheur de pouvoir, dès maintenant, contempler la gloire de Dieu. Donc là, on parle toujours de la foi. On peut contempler, dès maintenant, la gloire de Dieu. Et nous regardons vers l'avenir. On dit, je regarde vers l'avenir. Mais je regarde vers l'avenir avec quoi? Avec crainte? Avec tremblement, avec timidité, ou je regarde vers l'avenir avec une entière confiance. C'est quoi l'espérance? C'est une attente joyeuse et confiante, n'est-ce pas? Et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Nous savons que nous serons associés à cette gloire. Nous savons que nous serons associés à cette gloire. Ça, c'est quel temps? Ça, c'est futur, n'est-ce pas? Nous savons que nous serons associés à cette gloire. Notre espérance nous fait exulter de joie, car un jour, toute la splendeur divine sera nôtre. Donc ça, c'est l'espérance. Moi, je peux avoir la foi qu'aujourd'hui, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, je suis une nouvelle création. Mais je suis aussi conscient que je vis toujours dans un corps physique qui n'est pas encore glorifié. Donc, je suis sauvé, mais il y a encore une partie de mon salut qui n'est pas complet. C'est pourquoi j'ai la foi aujourd'hui que je suis sauvé, mais j'ai aussi une attente joyeuse qu'un jour, ce qui est mortel va être englouti par ce qui est immortel, et mon corps physique va être changé et changé pour un corps immortel. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Donc, j'ai à la fois la foi et l'espérance. Je peux avoir la foi d'être guéri par les maîtres de Jésus, et je peux toujours avoir l'espérance qu'un jour mon corps sera glorifié. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais verset 3, regardons ceci, c'est une parenthèse qu'il faut ouvrir dans ce message, mais il y a plus dès maintenant, dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie, comment on dit remplis de joie? Nous pouvons être remplis de joie parce que tout va bien, parce que la vie est rose et j'ai jamais des difficultés. C'est ça qui est marqué dans la Bible ici? Non, mais il y a plus. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons. Car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être quoi? Patient, à porter nos fardeaux sans rechigner. La patience nous affermit et développe notre force de caractère. Avez-vous besoin de force de caractère? Moi aussi. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve. Soulignez cette partie. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Donc voici un truc. On parle de la foi, de l'espérance et de l'amour. Mais savez-vous que quand vous commencez à agir par la foi, quand vous commencez à rêver et avoir de l'espérance, que vous allez avoir pas mal d'occasions de lâcher prise et d'être découragé parce que les circonstances négatives vont se présenter devant vous et tout ce que vous avez rêvé, toutes les circonstances vont dire « Impossible, impossible, ça marche pas, arrêtez, lâchez prise. » Qu'est-ce que vous faites quand ça arrive? Vous continuez avec joie, en sachant que Dieu va vous donner la victoire dans l'épreuve. Jamais la défaite, mais toujours la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire dans l'épreuve va donner force et constance à votre foi et votre espérance. Donc, la prochaine fois, quand vous avez un problème, c'est comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais ça vaut la peine de la répéter. Thomas Edison, quand il faisait l'expérience avec l'ampoule, quoi, entre 10 et 50 000 fois, il a échoué, et son assistant a dit, n'es-tu pas découragé? Il a dit, non, maintenant je connais 10 000 choses qui ne marchent pas. OK? Sachez que il a appris à travers ses expériences. Il a eu la force de caractère développée en lui, et c'est la même chose pour nous. Il y a des choses que j'aimerais pas répéter dans ma vie. Il y a des épreuves que j'ai eues dans ma vie, dans mon ministère, que j'ai pas du tout envie à répéter, mais je suis content d'avoir passé par là. Parce que je suis plus fort aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui sont plus forts parce qu'ils ont passé par les épreuves. Vous savez, ils disent que il y a certains arbres que s'ils vont pas, l'arbre va mourir. Pourquoi? Parce que c'est quand le vent pousse les branches et fait bouger les branches, c'est la résistance contre le vent qui fait couler le sève. Et si le vent n'est jamais là, l'arbre va mourir. Ça prend la résistance des fois afin de devenir fort. Quand je vais m'entraîner au gymnase, qu'est-ce que je fais? j'utilise ma force contre une autre force. Et c'est, s'il n'y avait pas de résistance, moi je peux pomper, je peux faire ça dans l'air, et je peux faire pas mal de répétitions. Je peux en faire facilement 1000 répétitions. Mais est-ce que vous êtes d'accord que je serais mieux de faire 25 répétitions avec l'opposition que 1000 répétitions dans l'air? Moi, je veux être fort, et vous? Je suis pas en train de dire que vous devriez inviter les difficultés. Pas besoin d'inviter les difficultés. Ça va se présenter sans invitation. Même pas besoin de RSVP, hein? C'est comme... Répondez, s'il vous plaît. Non, les occasions difficiles, la résistance va se présenter, mais au lieu de dire « Oh non », on devrait dire « Merci Seigneur, je vais passer à travers, je serai plus fort à la fin. » Prenez position. Amen. Agissez par la foi. Continuez à rêver. Alléluia. Puis numéro 3, troisième ingrédient, on a parlé de la foi, de l'espérance. Relâchez la puissance de Dieu en suivant l'exemple de l'amour. Savez-vous que vous êtes dans l'impossibilité de voir la puissance de Dieu agir dans votre vie. Votre foi va rester inactive aussi longtemps que vous n'agissez pas par l'amour. C'est l'amour qui fait agir votre foi. La foi agissant par l'amour. Tout le monde dit, la foi agit par l'amour. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'amour, la foi est inactive. La foi est morte. La foi ne sert à rien. Il faut croire la bonne chose, espérer la bonne chose, mais pour que ça marche, il faut aimer la bonne chose. Est-ce que vous aimez la bonne chose dans la Bible? Romains 5, 1. Or, notre espérance ne risque pas d'être quoi? Déçue, car Dieu nous aime. Il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. L'amour ne nous trompe pas. L'amour, l'espérance ne nous trompe pas. L'espérance ne risque pas d'être déçue parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Alléluia. Regardons Éphésiens 5, 1 pour terminer. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés, combien de vous, vous êtes des enfants de Dieu ce matin? Je pense que probablement presque tout le monde. Si pas tout le monde. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que toute votre vie soit dirigée par l'amour. Que combien de votre vie? Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Voulez-vous réussir votre avenir? Il faut que votre foi soit agissante. Il faut que votre espérance soit ferme. Mais votre foi et votre espérance ne vont pas marcher. Ça ne va pas agir. Votre espérance ne va pas rester ferme si vous ne donnez pas place à l'amour de Dieu. Il faut que je donne place à l'amour. C'est quoi le plus grand commandement? Quelqu'un peut me dire le plus grand commandement? Aimez-vous les uns... En fait, ça, c'est le deuxième. C'est ça. Aimez le Seigneur ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et puis, le deuxième est comme ça. Aimez votre prochain comme vous aimez vous-même. Parce que moi, vous assurez que si vous faites ça, vous aimez Dieu, vous aimez votre prochain, vous rêvez la bonne chose, vous croyez la bonne chose, vous allez réussir votre avenir. La foi, l'espérance et l'amour. Mais ça prend les trois ingrédients. On ne peut pas enlever l'amour et avoir quelque chose qui marche. On ne peut pas enlever l'espérance, parce que sans espérance, on ne peut pas croire. Amen? On a besoin des trois. Tout le monde dit la foi, l'espérance et l'amour. Tout le monde dit, je vais réclamer la bonne chose. Je vais rêver la bonne chose. Et je vais relâcher l'amour de Dieu. Alléluia. On va se lever debout. On va terminer ce matin. Ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Sondez votre cœur ce matin. Posez-vous la question. Est-ce que j'ai vraiment la foi? Est-ce que j'agis par la foi? Est-ce que ma foi est vivante? Ou est-ce que ma foi est morte? Est-ce que j'ai confondu la foi et l'espérance? Il y a beaucoup de gens qui pensent avoir cru, mais dans le fond, ils n'ont que espéré. Il y a d'autres qui n'ont pas encore cru parce qu'ils n'ont pas commencé à espérer. Il y a beaucoup d'autres qui n'ont jamais donné place à l'amour de Dieu. Ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu ou ils ont refusé de donner l'amour de Dieu. La foi, l'espérance et l'amour, trois ingrédients qui vont garantir notre avenir. Alléluia. Merci Père Céleste. Vous savez, à tous les dimanches matins, je donne une occasion aux jeunes de donner leur vie au Seigneur Jésus. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a jamais donné sa vie à Jésus? Peut-être vous avez espéré avoir la vie éternelle. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, avec Dieu et avec moi, si vous quitterez la bâtisse aujourd'hui et votre cœur arrête de battre, vous n'êtes pas certain, vous n'avez pas l'assurance à 100% d'aller au ciel et passer l'éternité avec Jésus. Peut-être vous espérez, mais espérer, ce n'est pas assez. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Je vais juste donner l'occasion. Parce qu'on n'est pas tellement nombreux à cause de la neige et changement d'heure, mais vous êtes là et Dieu savait que vous serez là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin que, si vous êtes honnête, vous savez que vous avez besoin, avant de quitter aujourd'hui, vous avez besoin de donner votre cœur à Jésus? J'aimerais juste vous donner l'occasion de prier avec moi. Je vais juste compter à trois. Quand je tape ma main, si vous êtes là, vous avez besoin de donner votre vie à Jésus, levez la main. Vous dites, mais oh, je vais à l'église. À l'église, c'est pas assez. Comme on dit, on peut aller chez Tim Hortons, on va pas devenir une benne, n'est-ce pas? Vous pouvez aller à l'église et pas être chrétien. Vous pouvez lire la Bible, prier, tout cela, mais c'est pas assez. Il faut donner sa vie à Jésus. Et Jésus a dit ceci, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de donner sa vie à Jésus ou de revenir à Jésus aujourd'hui? 1, 2, 3. Levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a une personne qui a besoin de revenir à Jésus. Amen. Quelqu'un d'autre? Vous se levez la main? Donc, je vais inviter la personne à venir parce que c'est quelque chose d'important. C'est important. Il n'a pas honte de dire qu'il va servir Jésus. Je viens à toi. Et je confesse devant ces hommes que je vais te suivre. Mon cœur t'appartient. Je vais faire ta volonté. Je vais continuer à espérer. Et à croire. Que tu as commencé une bonne œuvre en moi. Et que c'est toi qui vas mettre cette œuvre. À la fin. C'est toi qui vas la perfectionner. Ton amour est dans mon cœur. Et je donne libre cours à cet amour. Juste louons le Seigneur ce matin. Merci Père. Nous te remercions Seigneur. Tu as commencé à nous cette bonne œuvre. C'est toi qui vas nous rendre parfait. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut juste chanter?